J'aimerais lire un texte dans l'évangile de Luc. Lorsque je dois prendre la parole après Noël, il y a un texte que je trouve qui est incontournable. C'est celui de Siméon. Alors, je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà vu, mais voilà, j'aime bien ce texte. L'évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Seigneur, merci pour ta parole. Veuille bénir qu'elle soit pour nous bienfaisante et que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous voyez, comme je disais, ce que nous avons lu, ça se situe 40 jours après la naissance. Alors on est dans les temps, on peut en parler. Marie et Joseph se présentent donc au temple pour accomplir la loi de Moïse. Que dit cette loi? Le huitième jour, l'enfant sera circoncis, mais la mère restera encore 33 jours sans vie sociale. Au terme de ces 40 jours, elle apportera au sacrificateur un agneau d'un an pour le sacrifice de purification et un pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle viendra avec deux pigeons ou deux tourterelles, l'un pour le sacrifice de purification et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Vous lirez ça dans le Lévitique chapitre 12. En se présentant au temple pour la purification, Marie prouve son absence de sainteté personnelle et la nécessité de se présenter devant le sacrificateur pour être purifiée. Donc elle n'a pas un statut tout spécial par rapport à la loi, par rapport à ce qu'elle a enfanté le Fils de Dieu. Mais ce rituel a été court-circuité par la présence de Siméon. Qui était Siméon? Un serviteur fidèle, lui dit la parole. L'Esprit Saint était sur lui, c'est-à-dire en communion rapprochée avec Dieu. Il avait reçu une promesse, sans doute pour honorer sa piété, car il attendait la consolation d'Israël, selon la prophétie d'Ésaïe, celle qui était promise et qu'un fils viendrait, il y en a dans Ésaïe 40, Ésaïe 9 aussi. La venue du Christ était annoncée. Il faisait partie de ce reste fidèle, attaché à Dieu, qui malgré tout, malgré l'éloignement du peuple, restait fidèle. L'Écriture nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il est venu au temple. Heureusement qu'il n'était pas comme nous. On est tellement occupé par nos agendas, par notre activisme, qu'on n'a même plus le temps de venir, de programmer une réunion impromptue. Je ne sais pas si quelqu'un dirait, ben écoute, réunion demain, réunion spéciale pour prier. Qui viendrait? On est loin. J'ai pas de temps, j'ai mon agenda. Même quand on vous téléphone, si on ne répond pas tout de suite, on raccroche. Souvent on est démarché, alors. On ne perd pas le temps d'écouter ce qu'ils vont nous dire, on sait déjà ce qu'ils vont nous dire, alors on rapproche. Pardon. Voilà, on n'a plus le temps. On est pressé. Et là, poussé par le Saint-Esprit, il a entendu, il a été conduit et il est venu au temple. Alors en voyant l'enfant, il est convaincu qu'il est en présence du Messie. Là, il n'a pas de doute, il est là. Un peu comme Élisabeth, la cousine de Marie, quand elle s'est présentée, comme vous savez, quand elle est allée la visiter dans la montagne, là, et elle a dit, j'ai tout de suite su que c'était, que tu portais le Messie, car j'ai ressenti. L'enfant que je portais a réagi, et j'ai comme une émotion. Elle avait la certitude qu'elle était en face de la mère du Fils de Dieu. En prenant l'enfant dans ses bras, on peut imaginer l'émotion de Siméon. Vous imaginez, voilà des siècles qu'ils attendent cette promesse. Que son peuple attendait l'accomplissement de ses prophéties. Et sans doute que Siméon, sans doute âgé, la Bible ne dit pas, mais je pense qu'il était au soir de la vie, et qu'il commença à s'impatienter, peut-être, hein, il a vu cette promesse, alors il était tranquille. Il dit, tant que je n'ai pas vu le Messie, je serai encore là. Mais voilà, quelle émotion pour ce Siméon, de tenir dans ses bras. En quelques mots, Siméon va développer la mission de l'enfant. Il est présenté comme lumière pour éclairer les nations. Le salut promis à son peuple. Il est là dans ses bras, c'est lui qui le tient et qui va le consacrer. L'enfant est donc promis un brillant avenir. Lors de sa naissance, les anges n'ont-ils pas annoncé une période de paix et de joie? Je ne veux pas revenir, on a encore en mémoire tout ce qui a été dit. Hein. On s'est fait, vraiment? Est-ce que c'est vraiment la paix que nous voyons autour de nous? Est-ce que c'est la joie? Autour de nous, il n'y a que violence. Posez la question aux Ukrainiens, aux Gazaouis, aux Soudanais, aux Congolais, aux Nigériens, tous ceux qui souffrent d'un pays totalitaire, où les chrétiens sont persécutés. Mais la prophétie d'Isaïe précise qu'avant la venue de Christ, le peuple marchait dans les ténèbres. Il refuse délibérément la lumière. C'est un peu ce qui se passe en Afghanistan. De plus en plus, le pays s'enfonce dans l'obscurantisme. Et ça, c'est un choix. Dans Jean, au chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, car leurs œuvres étaient mauvaises. » Ont préféré. Un choix qu'ils ont fait. Une partie des conflits dans le monde, en Asie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique aussi, ont pour origine combattre ces chrétiens. Lorsque Joseph et Marie se rendent au temple, 40 jours après la naissance de Jésus, c'était pour accomplir ce qu'exigeait la loi. Pas de sentiment de supériorité parce qu'elle avait apporté le Fils de Dieu. Il devait accomplir la loi. Tout comme Jésus, hein, on l'a lu tout à l'heure pour son baptême, même qu'il n'en avait pas besoin du baptême, il a accompli, il a voulu que la loi soit accomplie. Quel sentiment animait le cœur de Marie en entrant dans le temple? Sentiment d'orgueil, de fierté, peut-être d'avoir un statut tout spécial, d'avoir une priorité dans l'église en entrant, peut-être applaudir? Non. On a l'impression qu'ils sont rentrés dans cette église un peu incognito. Elle a sans doute encore en mémoire toutes les promesses faites par les anges à l'annonce de sa grossesse. L'enfant que tu mettras au monde sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Imaginez cette promotion. Il est le Messie promis que tout le peuple attend, et son règne n'aura point de fin. Pourtant, oui, ils entrent dans le temple, sans tambour ni trompette. Les prêtres chargés d'accomplir le rituel ne sont pas conscients que l'enfant qui va être consacré est le Fils de Dieu. Car le couple qui vient d'entrer affiche leur pauvreté. Ils se présentent avec deux pigeons. Comme nous l'avons lu, la loi du Lévitique permettait aux plus pauvres d'offrir non pas un agneau, mais un pigeon à la place. C'est vraiment le paradoxe. Sans le savoir, Joseph et Marie viennent en plus des deux oiseaux avec l'agneau parfait. Ils entrent dans l'église avec le Fils de Dieu, l'enfant, l'agneau, qui ôte le péché du monde, qui va prendre sur lui le péché du monde, le mien et le vôtre. Et ces prêtres n'y voient rien, encore une fois. Ils n'étaient déjà pas là pour l'accueillir à sa naissance. Ces chefs religieux attendaient le Messie pour les libérer de l'occupation romaine. Alors ça ne devait surtout pas cet enfant qui pouvait les libérer. Ils n'y voyaient rien. Mais Simon était là pour rétablir la situation. C'est lui que Dieu a choisi pour révéler aux prêtres que l'enfant que porte Siméon dans ses bras vit, va un jour porter la souffrance du monde. Et il est là, dans ce temple. Et les scribes, tout le monde n'y voit rien. Mais Siméon voit venir des nuages sombres entourant le ministère du Messie. Au verset 34, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alors qu'il est annoncé prince de la paix, sur la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, prince de la paix. Quelle contradiction! Siméon va prédire un ministère compliqué. Les conflits qui ensanglent notre planète ne sont-ils pas pour certains combattre ces mécréants qui font de Christ l'égal de Dieu? Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Vous savez, cette phrase que les Juifs ont dite à Pilate, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'était un choix qu'ils ont fait. L'apôtre Paul dira aux Romains, Dieu met en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais celui qui croit en lui ne sera pas confus. Siméon avait vu juste. Sa prophétie se vérifie encore aujourd'hui. Tant que Satan aura sur le monde son autorité, les hommes auront un choix à faire entre les ténèbres et la lumière. Dans son évangile, Jean nous dit que les gens de l'époque ont préféré les ténèbres. Un choix qu'ils ont fait. Dans Matthieu, chapitre 10, Jésus prédit la division dans les familles à cause de lui. C'est fort, hein? Il le sait, parce que le choix à faire, ou la vie éternelle, ou la mort. Division dans les familles, le père contre son fils, la fille contre sa mère. Lors d'un camp, une jeune fille me disait ne pas demander le baptême pour ne pas blesser sa mère. Elle ne voulait pas être brouillée, elle s'entendait tellement bien. Que dire d'un musulman qui se convertit, qui perd sa famille, son clan, ses biens? L'évangélisation, ce n'est pas la conversion des gens, mais c'est de les convaincre qu'ils ont un choix à faire. Le résultat, leur choix qu'ils font, dépend de eux, et c'est entre eux et Dieu. Qu'en est-il pour vous? Christ est-il le rocher, sûr et solide, ou un scandale, parce qu'il ne convient pas à notre façon de faire? Ce solide refuge, précieux, fondement de notre foi, ou simplement un accessoire à notre piété? Parfois, des fois, je suis un peu troublé comment la façon dont je vois Jésus. Le voir comme un copain, comme un ami, comme un pote. Ce n'est pas le Dieu trois fois saint qui a besoin qu'on s'incline devant lui. Siméon a autre chose à dire à ses parents. Il ne va pas se mettre à genoux devant Marie parce qu'elle a donné naissance au Fils de Dieu. Pas d'adoration. J'aimerais bien que certains de nous, de ceux qui professent Christ le Sauveur, Christ le Messie, se souviennent de cela. Même Siméon ne se met pas à genoux devant Marie, parce qu'elle a donné naissance au Fils de Dieu. Mais il va en quelque sorte être le rabat-joie. Alors que peut-être il était bien avec des sentiments de fierté, il va les mettre à leur juste réalité, à leur place aussi. Il va révéler à Marie que l'avenir ne sera pas rose pour l'enfant. Ni pour elle d'ailleurs. Être porteuse, amenée, avoir enfanté le Fils de Dieu, être parent, être un privilège qui va être dur à porter et à assumer. Toi, Marie, tu vas passer par des moments d'angoisse. Ta foi sera mise à dure épreuve. Ton cœur de mère va souffrir. Quelle contradiction! Alors que les anges étaient formels, il sera grand, promis un bel avenir. En effet, il sera grand par son abaissement. Oui, il sera grand par son abaissement, par son humilité. Mais sur les honneurs, sur la gloire, tu peux oublier. Selon la loi de Moïse, tout mâle premier-né devait être consacré à l'Éternel, et les prêtres qui consacrent l'enfant l'enverront plus tard à la croix. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Alors oui, quand Marie a eu son fils cloué sous la croix, peut-être souvenait-elle dire, mais où sont tes promesses? Ton règne n'aura pas de fin? Alors c'est fini. Quelle foi pour cette femme! Cette conviction qu'elle était, qu'elle a mis confiance dans les promesses de Dieu. Car la croix n'était pas une fin. On n'évoque pas souvent ce qui a dû être la vie de cette maman, ni du papa d'ailleurs. Ne rien maîtriser concernant la carrière de leur fils, hein, ils n'ont rien pu faire. Certes, il était, après la Bible, il était serviable. Mais le reste, à 12 ans, déjà, il fait une fugue. Ses parents le cherchent 3 jours. Quelle angoisse. De nos jours, ça serait alerte enlèvement. Mais il le cherche partout, sauf où il était, dans l'église. Témoigner. Marie, plus qu'une autre, aura besoin de s'accrocher au rocher que sont les promesses de Dieu. Comme nous. Nous avons sans doute des moments d'angoisse, d'incertitude, de combat, de pourquoi envers Dieu. Rappelons-nous ces promesses qui se réaliseront, même si nous ne comprenons pas toujours. Marie a dû apprendre à faire confiance sans toujours comprendre. C'est notre propos pour chaque chrétien. Apprendre la confiance sans toujours comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Quand ces promesses vont à l'encontre de ce que nous vivons, de ce que vous vivez peut-être chaque jour. Son cœur de mère allait souffrir. Et elle va avoir besoin de se souvenir des précieuses promesses, surtout quand elle verra son fils sur la croix. Où là, tout semble fini. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait. Et puis voilà, c'est fini. il est mort. Oui, son fils écrasé de douleur sur la croix, en train de mourir par la haine des hommes, ceux qu'il était venu sauver, ils l'ont cloué. Pourtant, la promesse était là, son règne n'aura point de fin. Quelle foi qu'il fallait pour les disciples, encore à ce moment-là, on n'a encore pas tout compris, mais pour Marie. En mettant notre confiance en celui qui a payé pour nous, qu'espérons-nous? Une vie meilleure? On a souvent vu des chrétiens qui passaient par des terribles épreuves. Pourquoi? Moi-même, parfois, je suis en révolte, quand je parle révolte, mais avec Dieu, j'ai dit, mais cet homme, ce couple qui a donné sa vie pour toi, ils ont vu dans la pauvreté, dans la misère, simplement pour te servir, t'être fidèle, et avec une fin si dure, gravataire. Pourquoi, Seigneur? Elle ne nous exclut pas. Parce que nous avons une autre confiance en Dieu, nous vivons encore dans un monde géré par le mal. En mettant notre confiance en Dieu, nous n'avons rien à espérer d'autre que les autres, mais surtout de vivre mieux. La présence de Dieu dans nos vies n'évite pas les épreuves. Souvenez-vous des disciples dans la barque. Hein. Jésus était dans la barque, en enquête chavirée. Marcher dans l'obéissance n'évite pas les attaques du diable, mais la certitude que Jésus marche à nos côtés pour traverser ces épreuves. Si Marie, qui était dans la volonté pleine et entière de Dieu, n'a pas été épargnée par la souffrance, l'angoisse, le doute, pourquoi pas nous? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au sujet du Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, lui aussi a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En voulant suivre Jésus, nous avons tous des combats à mener, car nous vivons dans un monde sous l'emprise du diable. Un ami du village à qui je témoignais me disait, un Dieu qui permet tant de souffrances, tant d'injustice, ce Dieu-là, j'en veux pas. Bien sûr. Ne voyez pas au-delà de cela. Je lui ai beau lui dire, mais on a le choix. On vit dans un monde géré par l'ennemi encore. On se laisse c'est encore dans un monde qui choisit les ténèbres plutôt que la lumière. Toujours cette notion de choix. Mais ce n'est pas Dieu le responsable. C'est le monde qui s'engage à cette voie-là. Chers amis, chers frères et sœurs, si vous avez besoin d'encouragement, des certitudes quant à l'amour de Dieu, des réponses à vos pourquoi, souvenez-vous de ce que Christ a enduré pour vous libérer du péché. Pourquoi les mages ont vu les étoiles briller? Pourquoi les bergers ne l'ont pas vue? Alors qu'elle a prié, je pense que pour tout le monde. Hein. Les bergers, un peu comme nous, trop occupés pour gérer ses richesses, ils devaient compter leurs moutons pour ne pas qu'il y ait qui s'égare, alors ils avaient les yeux rivés dans le sol. Alors que les mages, bien sûr c'est leur métier, mais ils avaient les yeux rivés vers le ciel pour s'attendre à la promesse, pour revoir cette étoile qui a brillé un peu plus qu'une autre. Et ça suffit pour qu'ils se mettent en route pour un long trajet de plusieurs mois pour venir adorer celui qui était venu les sauver. Nous avons besoin que le Seigneur suscite parmi nous des Siméons. Près de lui, toujours prêts, être conduits par lui, s'attendre à lui. Il nous est dit que la suite, je n'ai pas lu le texte de Anne, qui priait nuit et jour, une continuité fidèle à la parole de Dieu, ce désir de prier, d'être près de leur Sauveur. Oui, nous avons besoin de cet attachement à la parole de Dieu, nous accrocher à ces promesses qui sont vraies. à l'instar des mages, ayons les regards fixés vers Jésus, vers ce regard. Nous attendre à lui. Bien sûr, nous n'avons pas la réponse à tous nos pourquoi, mais être comme Siméon, attentif à sa voix. Il avait la conviction qu'il ne mourrait pas. Nous avons aussi une certitude qu'un jour, nous verrons Jésus dans sa gloire. Nous serons avec lui. Regardez à lui. Regardez cette croix dressée par amour pour nous. Et saisissez par la foi toutes ces promesses qu'il a en réserve pour nous. Vous voyez, quand Ésaïe 43 nous dit « Si tu traverses par les eaux, par le feu, ils ne te submergeront pas, l'eau ne te submergera pas, le feu ne te brûlera pas, car je serai avec toi. » Encore une promesse où les difficultés ne sont pas épargnées, mais une promesse que Jésus marche à nos côtés pour nous aider à traverser ces épreuves. Voilà, c'est un encouragement à vous faire dans la vie de tous les jours. Dès que ça ne va pas, on va prier. Notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons d'être au bénéfice de la grâce. Seigneur, merci pour ces textes que nous avons pu lire, où nous voyons que des hommes et des femmes te sont restés fidèles malgré le pays qui vivait dans les ténèbres. Tu t'es révélé à Siméon, tu t'es révélé à Anne. Révèle-toi à nous, Seigneur, dans ta grâce et ta bonté. Veuille manifester ta grâce envers nous, que nous réalisons que tu nous aimes et que tu veux marcher à nos côtés, quoi qu'il arrive dans notre marche de tous les jours. Sois béni, Père, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Béni chacun des membres de cette communauté, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, visite-les, fais-leur du bien. Qu'ils ressentent ta présence, prions pour nos malades, personnes âgées, conduis-les vraiment dans ta présence, qu'ils ressentent ta présence, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.
Amen.